Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la France et au monde en partenariat avec la revue internationale et stratégique qui a choisi ce titre pour célébrer sa 100e parution en même temps que son 20e anniversaire. Regard sur la France dans le monde et les grandes questions qui se posent au monde en cette fin 2015. Nos invités, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Paul Chagnolot, directeur de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Bonjour.
Bonjour.
La France a d'une certaine manière été un peu au centre du monde ces dernières semaines avec les négociations sur le climat. On évoque souvent la question de l'image de la France dans le monde. On y reviendra. Pascal Boniface, vous avez pris l'option qui est de chercher à comprendre comment les responsables politiques français voient notre pays en leur posant la question de savoir si la France a encore un poids important sur la scène internationale. Qu'est-ce qui se dégage de ces réflexions ?
Il se dégage que la France a encore un rôle à jouer et selon le positionnement de chacun, effectivement, il pense que ce rôle est suffisant. C'est plutôt le cas de Laurent Fabius, que la France joue bien son rôle. Et il est bien sûr, les responsables de l'opposition estiment qu'elle pourrait faire plus et que s'ils étaient au pouvoir, elle ferait plus. Ça, c'est le jeu normal. Mais je crois que ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai eu 5 acceptations et que les sensibilités politiques différentes sont représentées puisqu'il y a Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du développement international, qui représente donc le Parti socialiste, François Fillon, François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan. Et il se dégage quand même une sorte, au-delà des différences de chacun, des sensibilités, quand même l'idée d'une France qui doit être active, d'une France qui a un message spécifique à faire valoir. Alors peut-être que d'autres responsables politiques n'auraient pas la même approche, parce que on voit bien qu'en politique étrangère, le clivage n'est pas entre droite et gauche.
Il est entre
les ceux qui sont de sensibilité gaulo-mitterrandiste, qui a encore un sens, y compris après la fin de la guerre froide, et ceux qu'on aurait qualifiés autrefois d'atlantistes, que l'on pourrait qualifier aujourd'hui d'occidentalistes. Et c'est vrai que là, mes 5 correspondants sont plus dans la première famille. Même François Bayrou, qu'on n'attendait peut-être pas sur ce point-là, a finalement des propos qui sont vraiment la critique de la réintégration dans l'OTAN, qu'il fait de ce qui a été fait en 2009, le fait de voir une France active. Jean-Luc Mélenchon aussi est intéressant parce que il y a une réflexion sur la puissance qui n'est pas toujours dans sa famille politique, toujours le cas. Donc on voit quand même qu'il y a, ils ont rien été très riches, j'ai eu beaucoup de plaisir à les faire, beaucoup de respect de chacun de mes interlocuteurs, et on voit que chacun a une vraie réflexion personnelle, au-delà de sa propre sensibilité politique, qu'il y a une vraie réflexion personnelle, un vrai attachement à la France et un vrai attachement à ce que la France soit active pour apporter une contribution positive aux affaires internationales.
C'est là le rôle de l'homme politique, somme toute, Pascal Boniface. Alors je remarque plusieurs choses. La première d'entre elles, il n'y a pas de femme dans les personnalités que
non,
vous avez
alors,
interrogées.
On devait avoir Cécile Duflot, mais les agendas n'ont pas été compatibles. Donc, je ne dirais pas lequel a été le plus inconvénient avec l'autre, mais finalement, c'est aussi un peu la parité au rang des leaders politiques n'est pas encore tout à fait là, effectivement.
Alors, des hommes de droite, des hommes de gauche, vous l'avez dit, Jean-Luc Mélenchon...
Enfin, il y a des femmes parmi les expertes qui ont été interrogées.
Oui, tout à fait, dans les experts et les chercheurs sur les orientations de politique étrangère. Mais pour ce qui est des hommes politiques, il n'y a vraiment que des hommes et pas de femmes politiques. Quelques mots, et après ça, on élargira le propos, Pascal Boniface. Donc, Jean-Luc Mélenchon, à gauche, qui évoque l'idée que nous ne sommes plus ni indépendants ni souverains. François Bayrou, vous le disiez, mais il n'est pas le seul à le penser. Il y a aussi avec lui Nicolas Dupont-Aignan, qui regrette la réincorporation du commandement militaire intégré de l'OTAN et d'une certaine manière, la perte d'autonomie politique de la France. Et François Fillon, qui souligne, lui, le décalage entre l'activisme international de la France et sa fragilité nationale.
Oui, effectivement. Et là, c'est d'ailleurs un propos que Laurent Fabius pourrait rejoindre, même si, bien sûr, il ne mettrait pas les mêmes choses. Laurent Fabius a souvent dit que si l'économie française ne se rétablissait pas, le poids de la France sur la scène internationale diminuerait et qu'on demanderait d'où parle le ministre des Affaires étrangères de la France, d'où d'ailleurs le rattachement du développement international, d'une partie de l'économie à ceux au Quai d'Orsay. Mais effectivement, François Fillon a des... On voit, et ce qui n'est pas surprenant, il l'a déjà dit, François Fillon estime que la France s'est auto-restreint, notamment dans une relation avec la Russie, qu'on aurait pu beaucoup plus jouer avec la Russie. Et là, on peut dire que c'est une sorte de gaullisme de bonne facture. C'est dans la tradition gaulliste. François Bayrou est plus surprenant. Lui, qui vient d'une famille centriste, qui est plutôt supposé être atlantiste, fait une sorte de surenchère gaulo-mitterrandiste suisse par rapport à l'OTAN, effectivement. Et François Fillon, finalement, réincarne quelque part. Ce n'est pas étonnant qu'il était proche de Philippe Séguin. Quand je lis, je me rappelle des conversations que je pouvais avoir en différentes occasions avec Philippe Séguin. Donc, il est vraiment dans cette tradition-là. En ce sens, là aussi, on peut dire qu'il se distingue de Nicolas Sarkozy.
Là, il s'agit de réponses aux questions que vous leur avez posées. Je ne sais pas si c'était des questions directes ou si c'était par écrit. Mais tous les deux, Pascal Boniface et Jean-Paul Chagnolot, qui côtoyaient beaucoup, en tout cas qui avaient des entretiens, qui savaient ce que le monde politique français pense de la façon dont la France gère sa place dans le monde. Est-ce que vous les trouvez, Jean-Paul Chagnolot, je me tourne vers vous, ces hommes politiques et ces femmes politiques françaises en phase avec la réalité du monde?
Je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le fait qu'il est légitime que les hommes politiques ou les femmes politiques aient une ambition pour la France. Je crois qu'on s'inscrit dans une histoire, alors qui nous renvoie, c'est vrai, à Mitterrand, qui nous renvoie à De Gaulle, mais bien au-delà. Nous avons historiquement une tradition très importante en matière de diplomatie et de présence dans le monde. Enfin, il faudrait remonter à l'époque, non pas que je sois un nostalgique de cette période, que les choses soient claires, mais la période de l'Empire colonial. C'est-à-dire que la France était un des grands États. Donc, il y a quelque chose qui reste de cela. Et puis, je crois que nous avons encore des instruments de puissance, on pourrait les évoquer, qui sont en particulier, évidemment, la présence en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, il est incontestable que la France compte. Alors, elle compte dans les ambitions de ceux qui voudraient la conduire, qu'ils soient dans l'opposition ou ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et elle compte aussi, je pense, dans le monde. Je crois qu'on attend quelque chose de la France. Il y a vraiment une image très forte. Donc, c'est tout à fait logique, au-delà des différences des uns ou des autres, qu'il y ait cet élan, cette volonté d'avoir une France qui a une influence. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'en est-il vraiment ? C'est-à-dire que la réalité, moi, je serais beaucoup plus malheureusement sceptique, quoi. C'est-à-dire que nous avons d'abord une classe politique qui, globalement, ne connaît pas grand-chose aux questions internationales. Et quand on discute avec des parlementaires, quelquefois, c'est même assez impressionnant, quoi. C'est pas leur boulot, d'ailleurs. Ils sont élus dans une circonscription. Ils sont élus de la nation, pourtant. Ils sont pas élus de leur circonscription. Et c'est vrai que la politique étrangère n'est pas une préoccupation première. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Mais je prends un exemple sans vouloir jeter de la pierre, encore une petite intifada quand même avec la commission des affaires étrangères. Il y a eu une très intéressante rapport de la commission des affaires étrangères. Il y en a beaucoup. C'est leur boulot et on sent bien que les députés qui sont dans la commission des affaires étrangères sont pas vraiment des spécialistes et pas simplement des spécialistes. J'ai l'impression qu'ils s'intéressent plutôt par à-coup, par réactivité. Donc on a, je crois, en fait, un décalage entre l'intérêt qu'on peut avoir pour la politique étrangère véritablement dans la classe politique de manière générale, hein, et les ambitions que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, je crois, un troisième point qui est sur lequel on va sûrement revenir, c'est que c'est pas le tout d'avoir des ambitions. Au-delà de ceux qui ne s'intéressent pas beaucoup, il y en a quand même qui veulent une politique étrangère de la France. Et cela, il faut qu'on passe par d'autres. Alors, il y a une formule que j'aime bien, mais qui est l'idée multiplicateur de puissance. Qu'est-ce que la France peut faire aujourd'hui seule dans un monde qui est complètement bouleversé et dans une Europe qui est en crise? Je crois que c'est les questions majeures. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans les années 60 où le général de Gaulle, avec en plus l'idée d'un grand personnage, était capable, dans le cadre de la guerre froide, non pas d'imposer, mais en tout cas de donner une voix forte de la France. Aujourd'hui, d'abord, est-ce qu'il y a une voix forte de la France? On pourra en discuter. Et ensuite, le monde a profondément changé. C'est un monde plus que multipolaire. Certains parlent d'un monde zéro polaire. Enfin, peu importe les termes, on n'est plus dans du bipolaire, ni même dans un unipolaire, bien entendu. Et c'est un monde surtout en mouvement constant, et une Europe sur laquelle on serait supposé pouvoir s'appuyer, dans laquelle il pourrait y avoir des synergies, dans laquelle des synergies pourraient se développer, se déployer, et en fait c'est l'inverse. On est plutôt non pas dans un multiplicateur de puissance avec l'Europe, mais si j'étais un peu rapide, je dirais plutôt des multiplicateurs d'impuissance, ce qui pose problème quand même. Donc il faut prendre en compte tout ça pour voir un peu après les limites dans l'action, dont on va sûrement dire un mot, dans tel ou tel sujet.
Je crois que les
prémices ou les paradigmes de base, disons, porte quelques contradictions.
Alors, Pascal Boniface, vous partagez ce que vient de dire Jean-Paul Chagnolot quant à ce décalage entre l'ambition et la parole forte de la France. On la cherche aujourd'hui, la parole forte de la France.
Alors, c'est vrai que François Hollande, par tempérament, n'aime pas les propos forts. C'est plutôt un homme de synthèse, de consensus, qui peut être utile pour trouver un accord à Minsk entre Russes et Ukrainiens ou sur la Grèce. Mais il n'est pas dans le proclamatif, dans la geste, dans la grande geste, comme l'était De Gaulle, Mitterrand, voire Chirac, à sa manière. Et effectivement, du coup, je pense qu'il n'y a pas, enfin, on peut discuter tel point, mais grosso modo, il n'y a pas d'erreur majeure. Il y a quelques erreurs, mais il n'y a pas d'erreur majeure dans la politique étrangère, mais elle est moins visible parce qu'elle est moins vocale qu'elle était auparavant. Pour revenir sur ce qu'a dit Jean-Paul Chesneau sur les responsables politiques, hommes et femmes, et la politique étrangère. Là, on a eu 5 personnes qui réfléchissent sur ces questions-là, et on le voit à la lecture et à l'écoute, c'est vraiment, il y a une vraie réflexion personnelle sur le monde et ce que doit être la France dans le monde. Et il y a une vraie passion chez les 5 personnes qu'on a, avec lesquelles je me suis entretenu, sur ce que, le rôle que peut jouer la France. Malheureusement, tout le monde n'a pas cette qualité. Et sans vouloir jouer les maîtres par rapport à des élèves, il y a parfois des parlementaires qui s'expriment parce qu'on leur tend des micros, parce qu'il y a une démultiplication des émissions, etc., et qui s'expriment sur la politique étrangère par des formules, disons, qui sont plus des slogans que des réflexions et qui sont plus des caricatures. Ça n'aide pas. Donc, chacun son métier. On ne peut pas être spécialiste de... Il y a des gens qui sont plutôt spécialisés sur les questions économiques, sur les questions sociales, etc. Moi, je n'irais pas m'aventurer à dire ce qu'il faut faire pour réformer la sécurité sociale. Et si on me tendait un micro pour le proposer, enfin, je suis pas élu, vous me direz, mais en tous les cas, je ne le ferai pas. Je constate, et je suis des fois effrayé, on a quelques exemples en tête, et je crois que par... comme nous sommes dimanche par charité chrétienne, on ne les citera pas, eh bien, il y a quand même quelques exemples de déclarations parfaitement ridicules, voire scandaleuses, de responsables politiques qui veulent faire un coup, qui veulent se faire remarquer et qui racontent n'importe quoi parce qu'ils y connaissent rien. Donc, il y a, disons, des propos sérieux, de vraies réflexions, et des fois, il y a un peu le café du commerce qui s'invite chez nous.
Vous écoutez RFI. Géopolitique.
Vous le disiez, Pascal Boniface, chacun son métier. Il n'empêche qu'il y avait tout de même une époque où les hommes politiques avaient, je me tourne vers vous, Jean-Paul Chagnolot, avaient une vraie vision, avaient, voilà, le message était quand même, j'ai presque envie de dire, plus consistant. Il y avait.
Au niveau des leaders, vous voulez dire.
Au niveau des leaders.
Parce qu'effectivement, je crois que les leaders ont toujours eu une préoccupation assez fondamentale de politique étrangère là-dessus, c'est clair. Mais en même temps, je crois vraiment qu'il faut revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que le monde a changé, quoi. C'est-à-dire que... Et si je prenais simplement un point qui me paraît important et très complexe, c'est la question de l'Europe. Je pense que à certains moments, on a vraiment imaginé que l'Union européenne serait une Europe puissance. Et que par conséquent, on pourrait avoir ce multiplicateur de puissance dont je parlais, qui est absolument indispensable, surtout dans un monde en pleine effervescence et en pleine mutation. Malheureusement, depuis au moins une bonne dizaine d'années, à la fois avec l'élargissement qui a quand même dilué les responsabilités politiques et les capacités d'intervention, et bien entendu la crise à partir de 2008, eh bien nous sommes dans une situation où l'Europe n'est plus dans cette capacité. Et en plus, il y a des problèmes qui sont liés à chacun des pays. Je pense à la Grande-Bretagne qui fut, à un moment donné, un État important dans la construction européenne. On voit bien les positions de la Grande-Bretagne qui veut sortir. Et la Grande-Bretagne aujourd'hui est en quelque sorte écartelée entre sa volonté de rester dans l'Union européenne à condition de la changer, donc en fait pas vraiment vouloir rester, et puis aussi écartelée avec ce qui se passe en Écosse, il faut quand même pas oublier, c'est un enjeu majeur pour la Grande-Bretagne, et bien entendu, enfin, les États-Unis. Donc on voit bien qu'un État qui aurait pu compter, mais le général de Gaulle l'avait déjà énoncé il y a bien longtemps, en fait, n'est pas du tout un apport, sauf ponctuellement. C'est vrai que quand on a besoin de la Grande-Bretagne, quelquefois il répond, mais pas toujours. Bon, et quant à l'Allemagne, sur le plan de la puissance, on sait que pour des raisons historiques, l'Allemagne n'est pas en capacité de se projeter, pour des raisons que chacun connaît. Donc on est vraiment dans une situation où la France n'a guère de possibilité de trouver des alliés pour faire une sorte d'Europe de la défense et de la politique étrangère qui soit à périmètre restreint et qui permettrait à l'Europe de s'exprimer vraiment. Et s'exprimer, c'est une chose, et bien entendu d'agir. On voit bien, on pourrait prendre 5 ou 6 exemples pressant, où on est dans ces contradictions-là. Et c'est extrêmement problématique. Et du coup, ça dilue notre capacité d'intervention. Parce que même si on peut intervenir à tel moment, eh bien, après, il se pose une question, c'est intervenir dans la durée. Et intervenir dans la durée, exister dans la durée par rapport à telle ou telle question, c'est extrêmement difficile. Et puis, sur certains sujets, l'Europe est tellement divisée qu'elle est muette. Elle est muette de pusillanimité.
Alors, pour ce qui est de l'image, on y reviendra. Je voudrais juste approfondir et on terminera sur les questions de politique intérieure, entre guillemets. Pascal Boniface, est-ce qu'on peut déplorer, regretter l'absence de débat de politique étrangère au Parlement français, justement ?
Aux parleurs français, ils sont pas très nombreux et lorsqu'ils existent, ils sont convenus. Il n'y a pas de vrai débat au sens où on cherche en commun à faire avancer une réflexion. Il y a un débat, par exemple, lorsque on décide de l'emploi de la force, mais les discours, on les connaît à l'avance et c'est pas un débat au sens, je dirais, faire avancer la réflexion. Il y a des débats, moi je suis frappé, et je pense que Jean-Paul Chagnolleau également, le nombre de débats en région sur les questions géopolitiques. Il ne faut pas croire que c'est pas Paris et le désert français, au contraire. Nous étions tous les trois, par exemple, à Nantes, plus de 5000 personnes sont venues. Et je fais fréquemment, et Jean-Paul Chagnolleau également, nous faisons fréquemment des conférences en région, et on ne peut pas dire que les questions géopolitiques font fuir les gens. Au contraire, il y a un véritable intérêt d'un public multigénération, multiprofessionnels, ce ne sont pas que des cadres, des étudiants, c'est vraiment des gens de milieux très différents qui ont compris que le monde extérieur les concernait au premier chef et qui ont envie de comprendre et qui savent qu'il y a des gens qui peuvent venir parler en termes simples et pédagogiques de ces questions-là. Donc moi je suis au contraire, les formations géopolitiques à l'université, nous sommes avec Jean-Paul tous les deux universitaires, il y a de plus en plus de monde, ce qui même d'ailleurs presque crée un problème de débouché. Pour cela, il faut les spécialiser. Donc en fait, de plus en plus, on voit quand même que la géopolitique arrive un peu partout et que le débat politique est peut-être un petit peu en retard, peut-être par rapport à ça. Effectivement, pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore comme aux États-Unis, mais souvent quand j'en discute avec les parlementaires, les gens vous disent oui, mais c'est pas là-dessus que je vais me faire réélire. Et puis il y a le côté si un parlementaire part en mission à l'étranger, l'électeur aura peut-être tendance à penser qu'il va se balader et pas faire un vrai travail. Et les gens ont du mal à expliquer cela. C'est aux parlementaires d'expliquer que c'est utile pour leur circonscription. Il y a cela. Et en même temps, et en compensation, de plus en plus, dans les régions, dans les mairies, dans les départements, il y a des directions internationales qui sont souvent la coopération décentralisée, diffuse très largement avec des gens qui connaissent tout à fait leur affaire et qui sont de vrais professionnels.
Jean-Paul Chagnolleau.
Oui, je suis pleinement d'accord avec ce que vient de dire Pascal Boniface. Il y a même un décalage entre certains de nos députés et nos politiques et puis la réalité sur le terrain. C'est vrai, sur le terrain, on est quelquefois frappé de voir le monde qui vient avec effectivement des publics très hétérogènes sur des sujets assez pointus, alors qu'en fait, les politiques s'y intéressent pas. Donc je crois que c'est, il y a vraiment une demande de ce qui se passe à l'étranger de plus en plus. Les gens comprennent que nous sommes dans un système mondialisé et que par conséquent, il faut aussi réfléchir à ça. Les députés, enfin, on va pas, ou les parlementaires, on va pas leur jeter la pierre, chacun a son boulot, effectivement, ils ont leurs limites. Mais je crois qu'il y a derrière ça une question plus fondamentale et qui touche aux politiques de manière générale, c'est que les questions de politique étrangère sont forcément des questions de temps long. Et les hommes et les femmes dans la politique sont dans du temps court. Et ce différentiel de temporalité, il est majeur. Il est absolument majeur à tous les niveaux, y compris au plus haut niveau. À un moment donné, même pour un ministre d'affaires étrangères, il est là pour 2 ans, 3 ans. Et puis les diplomates, si on prend le problème, ils ont aussi une temporalité qui est liée à leur carrière. Donc ils vont s'engager avec beaucoup de professionnalisme bien souvent. Mais en même temps, bon, ils passent d'un sujet à un autre, et voilà, quoi. Et le problème demeure. Et je pense que c'est ça qui me frappe le plus dans la politique étrangère aujourd'hui, c'est le fait que finalement, les réflexions de temps long, avec tous les éléments critiques qui l'accompagnent, sont assez rares. Alors pourtant, nous avons des instruments très importants, au Quai d'Orsay, au ministère de la Défense, enfin bref, on a ce qu'il faut, c'est, de ce point de vue-là, on a même des gens extrêmement compétents. Mais on voit bien que ce décalage entre ceux qui essaient de réfléchir et ceux qui sont dans l'action, et puis il faut ajouter à cette question de la temporalité qui est pour moi majeure, le fait que les hommes politiques ont, avec ce temps court, une réflexion pas simplement à court terme, mais aussi en termes de communication, et quelquefois on confond une réflexion de politique étrangère avec, en réalité, une action de communication. Je voudrais citer personne, mais par exemple, sans vouloir le nommer, Manuel Valls a quelquefois des déclarations de politique étrangère qui sont en fait des slogans de communication beaucoup plus que l'aboutissement d'une réflexion stratégique. Et ça pose problème. Ça pose problème parce que du coup, il met des attentes très haut et ces attentes, elles n'ont pas été pensées. Après, on bricole des choses derrière, évidemment, rapidement. Mais enfin, on est quand même dans des situations de contradiction qui quelquefois sont vraiment préoccupantes.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Pascal Boniface et Jean-Paul Chagnolleau dans quelques instants. À tout de suite.
Mémoire d'un continent.
Avec ses 2500 km².
Marie-France Chatin.
Géopolitique consacrée à la France et au monde en partenariat avec la revue internationale et stratégique qui a choisi ce titre pour célébrer sa 100e parution en même temps que son 20e anniversaire. Regard sur la France dans le monde et les grandes questions qui se posent au monde en cette fin 2015 avec nos invités Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, et Jean-Paul Chagnolot, directeur de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Jean-Paul Chagnolot, vous souhaitiez apporter une précision sur la notion de réflexion stratégique puisqu'on parle de la France, de la politique étrangère.
Oui, je crois que c'est une vraie question. Qu'est-ce que ça veut dire véritablement ? Alors, si on prend ça d'un point de vue théorique, ça signifie qu'un certain nombre de gens, spécialistes ou pas, diplomates, enfin tous ceux dont c'est plus ou moins le métier, réfléchissent à une question dans le temps long que j'évoquais tout à l'heure. Et vous avez effectivement ce type d'exercices qui sont faits au Quai d'Orsay, qui sont faits régulièrement au Quai d'Orsay, qui sont faits au ministère de la Défense. Et ça aboutit, par exemple, au ministère de la Défense, à un livre blanc qui essaie de penser les années à venir. Et quand on lit ces documents, je pense notamment au livre blanc, le dernier c'est 2013, quand on lit ces documents, on est frappé effectivement par la largeur de vue, par l'intérêt que ça peut avoir, et en même temps, on voit bien qu'il y a ici ou là, sur tel ou tel sujet, des blocages idéologiques. C'est extrêmement clair, c'est-à-dire qu'on n'a pas une pensée critique sur telle ou telle question, on a aussi quelquefois des paradigmes très basiques qui...
Vous pensez à quoi, concrètement ?
Je pense par exemple, je vous donne une phrase du livre blanc, le livre blanc considère clairement l'Iran comme un ennemi qui veut se doter de l'arme nucléaire. C'est une phrase du livre blanc de 2013.
Avant la signature de l'accord,
c'est deux ans avant, mais si vous voulez, ça donne une posture. Et cette posture n'est pas du tout simplement théorique, c'est pas seulement cette formule. Mais ensuite, ça a conduit... Ça illustre ou ça conduit, les deux à la fois, à une position par rapport à l'Iran qui, à mon avis, est assez critiquable. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment réfléchi à l'avenir par rapport à l'Iran dans les années qui viennent. Donc, c'est un exemple. Donc, la réflexion stratégique, elle est quand même aussi, il ne faut pas se raconter d'histoire. On a des principes, puis il y a des hommes avec leurs convictions, et après tout, je respecte ceux qui ont écrit ça. Donc voilà, donc on est lancé dans ces affaires qui sont finalement très compliquées, mais qui, quelquefois aussi, peuvent nous pénaliser, surtout si les hommes politiques prennent pour argent comptant ce type de documents ou d'affirmations, sans montrer justement les complexités qu'ils accompagne.
Alors, élément d'éclairage juste pour nos auditeurs, on a vu quand même en France surgir ces dernières années des positions assez fortes de ce qu'on peut appeler les néoconservateurs. Je ne sais pas si le terme était juste, approprié, inapproprié. Et tout cela, 10 ou 15 ans après les États-Unis, Pascal Boniface.
Oui, comme toujours, il y a un temps de retard par rapport aux États-Unis. Donc, la vague est un peu, c'est le ressac aux États-Unis. Ça fleurit un peu en France. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Jean-Paul Chagnolot, la composition de la commission du Livre Blanc faisait que les jeux étaient écrits à l'avance. Le Livre Blanc, c'était plutôt un exercice, disons, de réflexion stratégique qui devait permettre d'encadrer des chiffres budgétaires. C'était ça, le livre blanc. Et donc, quand on voyait la composition, on savait à l'avance que la réflexion... Et il y a une sorte de mythe du livre blanc depuis 1972, le vrai livre blanc écrit par Michel Debré, parce que c'était après la disparition du général de Gaulle. Michel Debré voulait qu'une trace soit laissée et il voulait conceptualiser la dissuasion. Donc ce livre blanc qui était un vrai effort intellectuel que l'on peut relire avec intérêt encore aujourd'hui, n'a rien à voir avec ce qui est suivi par la suite, qui était du temps de Balladur pour montrer qu'il était présidentiable et ensuite du temps de Sarkozy puis de Hollande pour dire qu'il fallait réduire le budget et que donc on adaptait en fait le pied à la chaussure et non pas la chaussure au pied.
Et donc, on se trompait de pied. Chaussures,
Et par ailleurs. et par rapport à ça, effectivement, on a vu que, à la fois dans les milieux intellectuels, également dans les milieux politiques et dans les milieux administratifs, il y a un vif débat entre néoconservateurs qui souvent ne s'assument pas, d'ailleurs, parce qu'ils n'aiment pas cette étiquette et ils n'aiment pas qu'on leur accole, ils peuvent même devenir agressifs quand on leur dit, et les gaulo-mitterrandistes, qui sont bien sûr qualifiés de ringards par les premiers, alors que Jean-Paul Chagnolot parlait de la communication qui est catastrophique par rapport au temps long. Je pense que la guerre en Libye est l'exemple parfait des choses qu'il ne faut pas faire, des opérations de communication qui sont des fiascos stratégiques. Je pense que ceux qui se sont opposés à la guerre d'Irak en 2003 n'ont pas été tout à fait démentis par les événements ultérieurs. Et quand je vois effectivement sur différents plateaux ou dans certains cercles des gens qui ont milité pour la guerre d'Irak, qui depuis 2002 nous disaient qu'il fallait bombarder là très rapidement l'Iran, parce que l'Iran était à quelques mois de l'arme nucléaire, eh bien on peut effectivement se poser quelques questions.
Puisqu'on est sur les questions de Proche-Orient, d'Afrique du Nord, Jean-Paul Chagnolot, vous parlez de cette opposition entre les gaulo-mitterrandistes, les néoconservateurs, etc. Est-ce que finalement nous avons, nous, Français, ou la France a-t-elle une vision encore globale de sa stratégie et de la façon dont elle entend prendre en considération le monde ?
Le monde ou le Moyen-Orient
Alors, le Moyen-Orient dans le monde, pardon pour cette réponse de Normande, mais peut-être...
Ah, on peut commencer par le Moyen-Orient. Voilà. La réponse, à mon avis, est non. Et donc, si on n'a pas de vision globale sur une région, je doute qu'on en ait une vraiment, sauf à des niveaux de généralité. Il y a un principe qui est répété par tout le monde dans le numéro piloté par Pascal Boniface, c'est la notion d'indépendance. On est tous d'accord là-dessus et l'influence de la France, elle passe par notre indépendance. Après, il faut savoir comment on assure notre indépendance et c'est tout le débat. Donc, à ces niveaux de généralité, oui, on a une vision, évidemment. Mais ensuite, sur le Moyen-Orient, par exemple, je crois vraiment pas qu'il y ait une vision. Là encore, sur les quelques principes, on a quelques idées, mais dans l'action, je crois qu'on ne doit pas dissocier la réflexion de l'action. Et en fait, non. Si je prends la question israélo-palestinienne, il y a des principes qui sont toujours les mêmes, mais la vision est brouillée. Et l'action, on se demande où elle en est. Il n'y a pas vraiment d'initiative, ni française, ni européenne. Et je crois que c'est un élément très important du Moyen-Orient. Quand on va ensuite intervenir en Irak en septembre 2014, il est clair qu'on y va sans vision véritable. Et moi, je discutais avec des responsables militaires importants qui me confirmaient mes doutes sur le fait qu'on est parti avec une stratégie. On n'est pas parti avec une stratégie. La stratégie, on l'a fait derrière. Alors, bien entendu, on peut dire qu'il fallait intervenir rapidement et qu'ensuite on allait réfléchir. Mais enfin, c'est quand même assez inquiétant d'entendre des responsables politiques ou militaires qui d'abord interviennent et ensuite se disent quelle stratégie on va conduire. Les Américains sont pas mieux. D'ailleurs, Obama lui-même a dit on n'a pas de stratégie à un moment donné il y a quelques mois. Donc c'est vraiment. Donc et après, on s'étonne que nous soyons dans cette espèce de chaos au Proche-Orient du point de vue international. Je parle même pas du chaos généré par des questions qui sont évidemment liées aux problèmes de ces pays. Mais enfin, les interventions de cette importance n'ont pas été pensées. Alors maintenant, on fait une sorte de stratégie à rebours. On essaie de, par exemple, juste un point parmi d'autres, mais on saisit le Conseil de sécurité maintenant. On a saisi le Conseil de sécurité, la France l'a fait. Après le 13 novembre, dès le 20 novembre, on saisit le Conseil de sécurité qui va sortir une résolution, qui est une résolution qui est votée à l'unanimité, donc avec la Russie, qui est assez ambiguë parce qu'elle n'est pas sous chapitre 7, mais en tout cas, elle donne aux États qui en ont les moyens la possibilité d'intervenir. Mais on sent bien que ça a été bricolé après, quoi. Et c'est quand même problématique. On parle beaucoup de gouvernance du monde. Voilà une affaire dans laquelle, entre septembre 2014 et puis décembre 2015, on a fait les choses à l'envers. Alors maintenant, on essaie de recoudre le tissu qu'on a au départ un peu ignoré ou déchiré, quoi.
Alors, Pascal Boniface, le 9 décembre dernier à Paris, Alexei Pouchkov, président de la Commission des Affaires étrangères de la Douma, déclarait que la France était le meilleur allié de la Russie. Commentaire.
C'est vrai que les relations sont plutôt bonnes entre la Russie et la France. J'étais à Moscou ces trois derniers jours et le fait que la Russie et la France ont été toutes deux victimes d'attentats le 13 novembre pour les Français et avec cet avion abattu dans le Sinaï pour les Russes a rapproché. Il y a des courants d'opinion qui en France voudraient qu'on n'ait pas de contact avec la Russie parce que Poutine est un dictateur. Je ne dis pas que Poutine est un démocrate social ou un social-démocrate, c'est un régime autoritaire, mais De Gaulle avait de bonnes relations avec l'URSS de Khrouchtchev qui n'était pas non plus Mère Teresa. Et il a reconnu la Chine de Mao en 64 qui n'était pas non plus un pays de cocagne en 64. Donc en fait, on a des intérêts communs avec la Russie. Sur le Mali, nous ont soutenus. Sur l'Iran, une fois qu'on a négocié avec eux, de notre côté, on a trouvé un accord. Si on voulait négocier sans eux, c'était moins important. Et François Hollande a, à juste titre, dit qu'en Ukraine, la Russie est certainement un problème, mais qu'elle était aussi la solution. Et aujourd'hui, on peut penser que le problème en Ukraine est plus les dirigeants ukrainiens que les interventions extérieures russes. Et puis, on a un désaccord sur la Syrie qui est le soutien à Bachar, de leur côté, que nous voulons voir au contraire quitter le pouvoir, et nous avons un adversaire commun qui est Daesh. Mais en tous les cas, la France, et c'est ça qui divise d'ailleurs, on revient à ce clivage occidentaliste, gaullo-mitterrandiste. Dans l'optique gaullo-mitterrandiste, il faut des partenariats. Vous avez des gens qui vous disent, faut pas parler aux Russes parce qu'ils sont pas démocrates, faut pas parler aux Chinois. Ah, c'est une erreur d'aller à Cuba parce que il y a Castro. Il faut pas parler avec les pays du Golfe parce que, etc. Et donc, on parle avec qui? On parle avec 27 pays de l'Union Européenne, les États-Unis, le Canada, l'Australie et basta? Non. Donc, on voit que ceci n'est pas sérieux. Si on veut une diplomatie, on ne peut pas avoir une diplomatie qu'avec ses semblables. La diplomatie sert justement à parler avec ceux qui ne sont pas comme nous. Et puis là, on essaye de voir quels sont nos points communs. Et vous avez chez les occidentalistes, tout de suite, dès qu'on parle avec quelqu'un qui n'est pas comme nous, c'est Munich, c'est Stockholm, ce sont des slogans à répétition qui ne sont basés sur aucune réflexion sérieuse. Je crois qu'au contraire, De Gaulle a donné une impulsion à la diplomatie française qui a été utile pour faire avancer le droit des peuples à disposer même dans d'autres circonstances, en discutant avec des pays qui n'étaient pas comme nous et en évitant de se voir désigner les pays partenaires par Washington.
Jean-Paul Chagnolot.
Je crois que on revient un peu à la question que vous évoquiez tout à l'heure. C'est quand Pascal renvoie à De Gaulle, on ne peut pas faire à chaque fois, on revient sur De Gaulle, évidemment. Je pense que la première chose, c'est que De Gaulle avait une vision. Il avait une vision et du monde, et du monde arabe, et du Moyen-Orient. Enfin, si on reprend ce que j'évoquais sur le Moyen-Orient. Donc c'est clair. Et il a pris des initiatives avec un mot qui me paraît oublié par nos dirigeants actuels et depuis pas mal d'années, c'est en anticipant. Il anticipait les choses. Et je crois qu'une des caractéristiques majeures d'une vraie politique étrangère, c'est d'anticiper, pas de courir derrière les crises, comme on l'a fait à plusieurs reprises. Ou alors, nos services de renseignement ne sont pas à la hauteur du boulot. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Quand Pascal rappelle la reconnaissance de la Chine en 1964 par De Gaulle, avant les Américains, c'était quand même quelque chose d'assez fondamental. Et... pour revenir à la Russie, pour revenir à l'Iran, il était clair que on avait, je ne sais dans quel cercle, une opposition systématique à l'idée de discuter avec la Russie, de discuter avec l'Iran. Et du coup, on se raccroche de manière tactique, plus que stratégique, à une négociation, une discussion avec les Russes, par exemple. Dans l'affaire du Moyen-Orient, c'est pas tant. On s'est demandé, est-ce que c'est Poutine qui rejoint Hollande ou est-ce que c'est Hollande qui rejoint Poutine? C'est une blague. C'est bien évidemment une tactique de la France qui essaie de dire, ah oui, effectivement, la Russie joue un rôle important au Moyen-Orient. Et puis pas seulement au Moyen-Orient. La Russie, depuis une bonne dizaine d'années, a tout fait pour revenir au premier plan. Enfin, il suffit de prendre les dates et voir la différence de l'importance de la Russie entre, après l'implosion de l'Union soviétique. Elle a mis des années, mais ça a été vraiment une obsession qu'on peut comprendre. Donc effectivement, la Russie, c'est un partenaire incontournable. Et les Américains l'ont compris avant nous. L'Iran, je pense que sur la région moyen-orientale, l'Iran est un partenaire indispensable. Et c'est évidemment pas un État démocratique. C'est évidemment pas un État avec lequel il sera facile d'avoir des contacts, mais enfin, écrire, comme je le citais tout à l'heure, que c'est notre ennemi, c'est quand même une posture absurde, parce que ça veut dire que ça nous empêche d'anticiper. Et alors maintenant que la question du nucléaire...
Nous ne disions pas l'Union soviétique dans les livres blancs précédents. Dans le livre blanc de 72, de Debré, l'URSS n'était pas désigné comme l'ennemi, justement. Ouais, et donc, on était plus loin...
On était beaucoup plus loin, c'est incroyable de dire ça. Et donc, il y a eu l'accord sur le nucléaire
en juillet dernier,
et du coup, alors on se reprécipite, on fait venir Rouhani, qui est finalement pas venu pour des raisons conjoncturelles, mais enfin, du coup, on va vers l'Iran. Mais on aurait pu anticiper ça depuis longtemps, parce que ça touche à des questions multiples, diplomatiques. Et puis, si on prend le nucléaire, il y a quand même une phrase que je voudrais citer dans cette émission, qui est quand même assez extraordinaire. En juillet, François Hollande doit commenter l'accord sur le nucléaire. Il se félicite de l'accord sur le nucléaire entre la communauté internationale et l'Iran, et en ajoutant, comme ça, ça empêchera l'Arabie saoudite et Israël de vouloir se doter de l'arme nucléaire alors qu'Israël est une puissance nucléaire. C'est incroyable qu'un président de la République ait dit ça. Alors, c'est passé plus ou moins inaperçu parce qu'en plus, les journalistes n'ont pas réagi, n'ont pas fait leur boulot, là. Mais enfin, Israël est une puissance nucléaire. Donc, on a manqué beaucoup de choses, je trouve, malgré les aspects très positifs, par ailleurs, de notre politique étrangère.
Alors, pour ce qui est de la notion d'indépendance qu'évoquait tout à l'heure Jean-Paul Chagnolot, Pascal Boniface, est-ce que finalement, dans le monde post-guerre froide, la France a, selon vous, suffisamment réévalué sa relation avec Washington?
Je ne le pense pas. Je pense que ni De Gaulle ni Mitterrand, par exemple, n'auraient interdit à l'avion d'Evo Morales de survoler la France au soupçon que Snowden aurait pu être dedans. Mitterrand avait vendu des armes au Nicaragua en 82, alors que les États-Unis minaient les ports du Nicaragua. Je ne pense pas que cet épisode puisse se renouveler. Je pense que le tempérament de François Hollande est plutôt à la conciliation. Par exemple, là, récemment, l'OTAN a accepté le Monténégro. Le Monténégro est devenu membre de l'OTAN. Je ne pense pas que ça solidifie énormément la défense occidentale. Mais quel message envoie-t-on aux Russes alors que l'on dit qu'il faut s'allier avec eux et que le principal est l'ennemi, c'est Daesh. Donc il faut que les Russes luttent avec nous contre Daesh. En même temps, on va les exciter en intégrant le Monténégro dans l'OTAN. Donc c'est un signal contradictoire. Je pense également que la France aurait pu plus s'opposer qu'elle ne le fait au système de défense antimissile, qui est une relance inutile et dangereuse de la réponse aux armements, qui a été justifié en son temps par la menace balistique et nucléaire iranienne. Mais puisqu'on nous dit qu'il n'y a plus de menace, pourquoi il ferait garder ce système qui, de toute façon, est coûteux, ne sert à rien? Et donc, je pense effectivement que François Hollande, il n'est pas néoconservateur, il n'est pas atlantiste, contrairement à ce que disent certains, mais il est un peu en deçà quand même de la ligne gaullo-mitterrandiste, sur laquelle Fabius serait plus sensible éventuellement. Et je crois qu'il y a finalement un désaccord ou une différence de conception entre le président et son ministre des Affaires étrangères sur ce point précis.
Jean-Paul Jagnolot ?
Oui, je crois que, toujours reprenant les mêmes termes de stratégie, je pense que François Hollande est bien plus souvent dans une dimension tactique de réactivité par rapport à une configuration donnée, sans véritable vision stratégique, que par ailleurs, je pense, Laurent Fabius peut avoir quelquefois. Donc je ne sais pas comment ça se passe à ce niveau du pouvoir, mais il est clair qu'on est sur des registres un peu différents. Et la stratégie nous fait défaut. Alors on va retourner du côté de la Russie parce qu'on en a besoin à un moment donné, on s'aperçoit que c'est nécessaire. Et par rapport aux États-Unis, là aussi, c'est des à-coups. Mais il n'y a pas une véritable ligne claire qu'on aurait pu repérer. On le fait en fonction de ce qui va se passer dans telle ou telle configuration. Et puis, je reviens à une chose importante. Si on veut vraiment avoir de l'influence à terme dans les années qui viennent, et quel que soit le parti politique ou la sensibilité politique au pouvoir, je pense qu'il faudra impérativement passer par l'Union européenne, c'est-à-dire avoir vraiment une initiative européenne de reconstruction, parce qu'il n'y en a pas de politique étrangère et de défense. Et je reviens au terme de multiplicateur de puissance tout à l'heure. Je crois que la France a son rôle à jouer, parce qu'elle a son histoire, elle a ses ambitions, elle a ses images à travers le monde. Je pense que ça, il faut vraiment, c'est un atout absolument formidable. Mais à un moment donné, dans l'action, il nous faut des alliés, pas simplement des alliés, une synergie. Et cette synergie, on peut la rêver dans une Europe à quelques-uns. Et j'ai pas le sentiment que le travail de ce point de vue-là, a été très loin. Je suis convaincu qu'il a été tenté, bien entendu, par nos diplomates et par notre politique étrangère. Mais disons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Parce que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, si on a le même débat, eh bien, je pense qu'on s'apercevra que nous avons beaucoup de difficultés, précisément parce que l'Europe est un peu en miettes. C'est vraiment un défi majeur.
Et suspendue, cette Europe, notamment, à la décision du Royaume-Uni. Pascal Boniface.
Oui, alors, d'une part, je rejoins Jean-Paul Chameau pour dire qu'il y a encore une attente de la France dans le monde. Moi, je suis pas un spécialiste d'une région quelconque. Je me balade un peu partout, au gré des opportunités. Et en fait, la France a quand même une image qui reste positive, qui reste bonne. Même si on n'est plus aux heures de gloire, notamment après 2003.
Il y a une attente de la France.
Après le refus de la guerre d'Irak. Il y a une attente de la France qui existe encore. Alors, comment l'Europe, le problème, c'est que les Britanniques vont voter. Au moins, il y aura une clarification. Soit ils restent très bien, au moins ils ne pourront plus dire qu'ils sont là, mais pas là, et qu'ils ont adhéré à la communauté économique européenne.
C'est important d'arriver à cette clarification pour savoir où on va.
Voilà. Et soit ils partent, eh bien, bon vent, et on sera peut-être plus tranquille. Mais il y a un problème, c'est qu'en fait, il y a toujours un clivage entre l'Ouest et l'Est en Europe, qui s'accentue, notamment avec les dernières élections en Pologne. Un coup de barre à droite et un coup de barre même plutôt en arrière, enfin vraiment. Et on voit que sur l'attitude à la guerre de la Russie, sur l'attitude à la guerre des réfugiés, il y a encore ce clivage Est-Ouest qui existe. Et donc, bien sûr, une relance pour l'Europe, mais c'est pas avec les Pays-Baltes ou la Pologne actuelle qu'on fera quoi que ce soit. Donc, c'est plutôt en petit cercle. Les Allemands sont quand même plus ambitieux qu'auparavant. Les Italiens, les Espagnols, d'autres sont là. Les pays nordiques ont une tradition d'une vision large du monde sur laquelle il faut s'appuyer. Et donc, oui à l'Europe, mais en cercle limité.
Jean-Paul Jagnolot.
Oui, non, mais je me suis mal exprimé. Je parlais d'un périmètre restreint. Sans périmètre restreint, c'est la dilution. Je pense qu'on a fait une erreur historique en 2005 en élargissant l'Union européenne sans avoir au préalable construit des institutions capables d'accueillir 25, 27, 28 États. Et par conséquent, au lieu d'élargir, enfin, on a élargi, mais on a dilué. Avec toutes les contradictions qu'on a aujourd'hui, ceux qui sont arrivés dans les années 2005, enfin en 2005, en fait, ils cherchaient surtout leur sécurité économique et la sécurité militaire, ils l'avaient par l'OTAN. Enfin, c'était ça le jeu, quoi. Mais il n'y avait pas d'ambition politique du tout, c'est bien évident. Donc aujourd'hui, on est dans une dilution de l'Union européenne. À quoi s'ajoute la crise financière? Le seul moyen d'en sortir, ce sont des périmètres restreints, mais c'est un enjeu majeur si l'Europe, dans 20 ans, veut pouvoir compter dans le monde.
Périmètre restreint, il y a un élargissement, on peut le rappeler pour nos auditeurs, qui s'est fait sur de mauvaises bases. Référendum, opposition,
oui, bien sûr.
Et finalement, on y va quand même.
Bien sûr.
C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et Jean-Paul Chagnolot, directeur de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Une édition de Géopolitique qui était en partenariat avec la Revue Internationale et Stratégique, qui vient de faire paraître son 100e numéro. La Revue Internationale et Stratégique qui fête par ailleurs son 20e anniversaire. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Victor Hull. À samedi prochain.
RFI, la sélection du mois.